Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 25 juin 2019, nous vous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y retrouverez une page consacrée à cette émission avec toutes les références utiles, les liens sur les pauses musicales et les moyens de nous contacter de manière à nous faire des retours à la fois sur l'émission et aussi sur les points éventuellement d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme du jour. Nous commencerons dans quelques secondes par la chronique « Les transcriptions qui vous redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la bureautique libre et plus particulièrement LibreOffice. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam. À la réalisation, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors on va vous proposer comme chaque émission un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission, ou peut-être que ce seront nos personnes invitées qui vous donneront les réponses. Alors, première question. Lors de l'émission du 18 juin, donc la semaine dernière, a été évoqué un nouveau projet de Framasoft, un nouveau service libre dont l'objectif est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook ou Meetup. La question est, quel est le nom de ce projet et comment s'écrit-il ? Deuxième question. Combien de logiciels différents ou modules existent-ils dans la suite LibreOffice ? Et je complète la question par « Est-il possible de faire de l'écriture collaborative avec LibreOffice ?» Donc évidemment, nous aurons la question. Alors je vois les personnes invitées qui comptent sur leurs doigts pour être sûres de donner la bonne réponse tout à l'heure. Alors tout de suite, place au premier sujet. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription à l'April. Ces coups de cœur mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont Marie-Odile conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » donc de Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous.
Alors, quel est le sujet dont tu te souhaites nous parler dans cette chronique aujourd'hui ?
Un peu plus de un an après son entrée en vigueur, j'ai souhaité revenir sur le RGPD, le règlement sur la protection des données. Au printemps de l'année dernière, 2018, le sujet était d'actualité car ce règlement, dont le texte était connu depuis avril 2016, était applicable avec risque de sanctions d'un montant colossal pour les entreprises à partir du 25 mai 2018. Notre groupe avait alors transcrit l'enregistrement de 4 émissions de radio sur ce sujet et cette année, dans sa chronique « In Code We Trust » de mai 2019, Noémie Berger a, en quelque sorte, fêté le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de ce règlement. Toutes les références sont sur le site de l'April et les auditeurs peuvent s'y reporter. De nombreuses personnes s'expriment sur le sujet dans les émissions que nous avons transcrites, bien entendu des avocats experts, mais aussi l'ex-secrétaire d'État en charge du numérique Mounir Majoubi, une journaliste de la rédaction de UFC Que Choisir, un membre de la Quadrature du Net, ainsi que les participants à un Décryptualité.
Alors, quel est l'objectif de ce règlement ?
Ce règlement a pour objectif de protéger les données personnelles et plus précisément, selon l'un des avocats qui intervient, les données à caractère personnel. Il rappelle que dans la loi française de janvier 1978, loi informatique, fichiers et liberté, on parlait de données nominatives puisque liées au nom. Avec les évolutions des textes, on est passé aux données à caractère personnel. Ce sont toutes les données qui sont liées à une personne et qui permettent directement ou indirectement son identification. Nom, prénom, pseudonyme, adresse mail, adresse IP, les quatre nombres qui permettent l'identification de la carte réseau d'un ordinateur sur Internet, tablette, photographie, plaque minéralogique de sa voiture. C'est donc extrêmement large.
Alors tu as dit que c'était un règlement européen. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Concrètement, ce texte fournit un cadre harmonisé au niveau européen et s'applique, suite à une transposition dans le droit de chacun des pays, aux 27 ou 28 pays membres de l'Union européenne. Ce texte s'applique à tous les acteurs mondiaux à partir du moment où les données qui sont traitées sont les données des Européens sur le sol européen, quel que soit le lieu où les entreprises responsables du traitement se situent, mais aussi les sous-traitants de ces entreprises, ce qui provoque un efficace effet boule de neige. Dans chacune des transcriptions, on retrouve toutes les obligations que ce règlement impose aux entreprises qui traitent les données. Je ne vais pas les énumérer ici, les auditeurs et auditrices les retrouveront à la lecture de chacune des transcriptions. Divers intervenants sont d'accord sur le fait que ce règlement va mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas qu'il va changer le paysage et que c'est même hyper positif.
Et qu'est-ce que cela implique côté entreprise ?
Côté entreprise, on peut retenir que ce règlement européen donne l'occasion à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de faire un peu le ménage dans ses bases de données. Il oblige les entreprises à une véritable introspection. Elles sont obligées de s'auto-responsabiliser pour essayer de beaucoup mieux documenter ce qu'elles font sur les données. Chaque entreprise doit se poser les questions suivantes indiquées dans l'une des transcriptions. Qu'est-ce que je fais avec les données? Pourquoi je les garde? Combien de temps je les garde? Quel est le fondement légal de tout cela? On peut retenir l'obligation obligatoire d'un délégué à la protection des données qui ne reçoit pas d'ordre de sa direction et qui doit tenir un registre à présenter en cas de contrôle de ce que fait la personne morale, la société, avec toutes les données. Ce délégué à la protection des données est censé être un lanceur d'alerte. On note aussi la nécessité de mettre en place de nouveaux process dans l'entreprise, avec quand même l'impression qu'il faudra du personnel supplémentaire. Un des avocats indique que cette mise en conformité ira de pair avec la mise en place d'une meilleure sécurité pour protéger l'entreprise contre les attaques et les risques de piratage. C'est une opportunité de développement et de renforcement de la sécurité avec comme aspect positif le fait que les clients s'adresseront davantage à ces entreprises.
Alors, on va quand même préciser que le RGPD s'applique pas uniquement aux entreprises, mais en fait à tout le monde, toute organisation, y compris les associations et même des personnes individuelles qui gèrent des données personnelles. Alors, côté internaute, ça se passe comment ?
En corollaire avec les devoirs des entreprises, ce règlement implique des droits côté utilisateur, côté internaute. Les experts indiquent que les internautes vont y trouver du bon, tout en reconnaissant qu'on est quand même dans des machineries extrêmement complexes, très compliquées à décortiquer pour le commun des mortels. Cependant, cette meilleure hygiène du traitement de la donnée va entraîner un changement de paradigme qui ne peut être que rassurant au quotidien pour les consommateurs. Pour les utilisateurs, les mesures sont assez protectrices. Cette loi demande plus de transparence et essaie d'informer l'internaute tout en le prenant par la main. Pour Mounir Majoubi, c'est un réveil de l'esprit pour tous. Il faut se rappeler que nos données personnelles sont importantes, qu'il faut les protéger. Les gens vont se rendre compte des risques qu'ils ont pris avant avec leurs données. On peut espérer qu'il y ait une sorte d'éducation de chaque utilisateur en vue de ses responsabilités. Ce qu'on peut retenir en particulier, c'est la possibilité de faire des actions de groupe, ce qui est une avancée importante. Le représentant de la Quadrature du Nel rappelle l'action qui a été lancée par son association auprès de la CNIL à l'encontre des GAFAM.
Et est-ce que des conseils sont donnés aux utilisateurs et utilisatrices ?
Tout à fait. Une des intervenantes rappelle que l'année dernière, nous avons reçu des messages provenant des sociétés qui nous fournissent des applications, nous demandant de valider à nouveau les conditions d'utilisation. Elle nous incite à cesser de valider, comme toujours, sans faire attention, à prendre le temps de lire, ce qui va permettre de reconfigurer, de recomprendre le contrôle de ces applications dont on a complètement oublié ce qu'elles faisaient avec nos données, nous concernant, et pour cause, souvent, elles ne nous l'ont pas dit.
Ah, ça a coupé. J'ai l'impression que nous avons perdu Marie-Odile. Vous entendez ce doux bruit du téléphone. Donc, elle va essayer de rappeler. Marie-Odile nous parlait en fait du représentant de la Quadrature du Net, qui, donc, dans une des transcriptions, nous indiquait qu'il fallait en fait accepter de fournir le moins possible d'informations personnelles, de données lorsqu'on publie des services. Cette personne, dont je ne me souviens pas le nom, je l'avoue, conseille à chacun et chacune d'être discret, ce qui est applicable tout le temps, au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Les citoyens ne doivent pas hésiter à poser la question « Pourquoi demandez-vous toutes ces données ? À quoi vont-elles servir ?» Donc les transcriptions sont référencées sur le site de l'April, donc april.org. Vous trouverez, donc, je crois qu'il y a 3 ou 4 transcriptions qui sont référencées sur le site, donc qui concernent donc le règlement général sur la protection des données, règlement européen, en fait, qui s'applique directement dans chacun des droits. Il n'y a pas forcément besoin de transposition, même si dans certains pays, il y a eu des transcriptions ou des transpositions, notamment en France, avec la modification de la loi informatique et liberté. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter, je cherche mes notes, voilà, une hésitation par les journées de création musicale de Zik Libre en Bib.
Cause commune
93.1. En plein désert, en pleine obsession, libre comme l'air pour oublier rancœur et contrefaçon. Se relever d'une hésitation, les yeux tournés vers les virages. Des raisons, choisir pour nous le meilleur et le pire sans compensation.
D'écouter une hésitation par les journées de création musicale Zik Libre en Bib. Cela veut dire en fait les musiques libres en bibliothèque et nous recevrons une personne de Zik Libre en Bib le 9 juillet 2019. Donc c'est en licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la bureautique libre et plus particulièrement sur LibreOffice, The Document Foundation, La Mouette, les formats ouverts. Donc, les invités du jour, Christophe Cazin, membre de La Mouette et du groupe MIMO. Il nous expliquera tout à l'heure ce qu'est le groupe MIMO. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Stéphanie Robert, membre également de La Mouette et chef de projet à Grenoble pour la migration vers LibreOffice. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et Philippe Hemel, qui est également membre de La Mouette, mais surtout aujourd'hui représentant de The Document Foundation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, c'est une première émission sur la bureautique libre, hein, qui est un sujet en fait beaucoup plus vaste que simplement LibreOffice. Donc, on va essayer d'aborder les principaux points. Et nous ferons sans doute d'autres émissions pour rentrer plus en détail sur certains aspects ou certaines migrations peut-être. Alors déjà, première, un petit tour de table pour vous présenter rapidement, savoir qui vous êtes. On va commencer par Christophe Cazin.
Oui, donc je suis le trésorier de La Mouette, hein, association qui a été créée en 2009. Et je suis aussi membre du groupe de travail MIMO, qui est Mission interministérielle pour une bureautique ouverte, qui est normalement dédiée à la suite bureautique libre de l'État.
Stéphanie Robert ?
Eh bien, pour ma part, je suis membre donc, de La Mouette, et de l'ALDIL.
L'ALDIL, c'est quoi ?
L'ALDIL, groupe d'utilisateurs et de logiciels libres à Lyon. Dans le monde du libre, suite à des études spécialisées dans les logiciels libres, donc depuis lors utilisatrice, puis en indépendante ou en salarié missionné, j'accompagne donc des structures, entreprises, collectivités dans la migration vers de bureautiques libres ou PAO libres.
Philippe ?
Donc j'ai fait partie déjà un petit historique de la communauté OpenOffice depuis 2002, puis LibreOffice. Aujourd'hui, je suis effectivement membre de The Document Foundation et aussi fondateur de la société Arawa, qui est une société de services spécialisée dans les outils de collaboration documentaire open source, bien évidemment.
D'accord, voire libre aussi.
Voire libre, oui.
Je vais juste vous demander de bien parler proche du micro pour que les gens t'entendent bien. Alors, premièrement, on va d'abord essayer de présenter ce qu'est LibreOffice et peut-être un petit historique aussi, parce que c'est en fait l'historique est très ancien. Donc, qui veut présenter en quelques mots déjà LibreOffice avant qu'on rentre plus dans les détails et puis rappeler l'historique ? Qui veut commencer ?
Je vais commencer, Christophe.
Christophe Cazin.
Et puis, si j'oublie des petites choses. Alors, à l'origine, il y avait une autre suite bureautique qui s'appelait StarOffice, qui était un produit allemand, qui était un produit commercial, hein, édité par une société allemande. Ce produit-là...
Je précise, quand tu dis commercial, c'est une suite privatrice, propriétaire.
Oui, propriétaire, oui, qu'il fallait acheter.
Dans les années... Quelles années ?
Oh, c'était 96. En 96, oui.
Voilà, fin des années 90, début des années 2000.
Oui. Et cette suite bureautique a été achetée par un géant américain qui n'existe plus, qui s'appelait Sun Microsystems. Sun Microsystems a racheté StarOffice et a libéré le code et pour en faire un logiciel libre qui s'est appelé OpenOffice. De cette opération est née une communauté internationale, hein, puisque effectivement le code était libre et chacun pouvait se l'approprier et puis en plus le télécharger et l'installer librement sur tous les postes. Donc ça a eu un gros succès puisque c'était une suite. Il existait d'autres logiciels libres de bureautique, mais pas aussi complets que ce produit. Et en fait, beaucoup d'associations sont nées sur OpenOffice, dont La Mouette, hein, pour faire la promotion de ce produit. Malheureusement, Sun Microsystems, géant américain, a été racheté par un autre encore plus gros, Oracle, qui en fait n'a pas souhaité prolonger OpenOffice. Alors, on le savait un petit peu que ces intentions étaient un peu hostiles par rapport au logiciel libre. Et donc, en fait, la communauté OpenOffice a travaillé pendant un an à récupérer tout le code sur tous les serveurs de Sun Microsystems et a, entre guillemets, au moment où Oracle lâchait OpenOffice, la communauté a lancé LibreOffice. Et là, sous une forme différente, puisque en fait, ce n'était pas porté par une entité commerciale, mais par une fondation de droit allemand, qui en fait, donc, reste encore maintenant sous le terme LibreOffice. Enfin, on n'a pas pu récupérer le nom, le copyright d'OpenOffice.
Oracle a refusé de vous donner, entre guillemets, de libérer le droit, le nom OpenOffice.
Voilà. Alors, curieusement, OpenOffice existe toujours, est toujours disponible, mais plus pour des raisons techniques pour un certain nombre d'opérateurs que pour des raisons d'intérêt global et général. Il s'est trouvé qu'au moment où Oracle voulait tout abandonner sur OpenOffice, IBM avait en fait beaucoup investi sur OpenOffice. Et donc, en fait, le consensus a été de donner en fait le trademark OpenOffice à une fondation américaine qui s'appelle Apache, Et donc, Apache a, entre guillemets, pris en charge, hébergé, en fait, OpenOffice, mais OpenOffice sans lui donner vraiment beaucoup de personnel, parce qu'en fait, cette fondation, en fait, c'est une auberge espagnole. Elle vous héberge.
Très nombreux projets.
Voilà, voilà, donc elle est restée très, très longtemps dans un incubateur. Et puis, juste pour des raisons techniques, effectivement, IBM a continué de piocher dans le code OpenOffice et de le maintenir. Mais c'est de plus en plus à l'abandon. Et actuellement, OpenOffice est, entre guillemets, malade, puisque, en fait, un certain nombre de correctifs techniques importants de sécurité ne sont pas appliqués et la communauté, enfin les gens qui restent un peu sur OpenOffice n'ont plus les moyens de les appliquer. Donc, et de l'autre côté, LibreOffice en fait récupère la totalité des utilisateurs. Mais effectivement, le nom OpenOffice reste et dans le grand public, il y a encore des gens qui effectivement ne connaissent qu'OpenOffice parce que c'est un produit qui a eu un essor important, une grosse communauté et c'est parfois difficile de leur expliquer qu'il vaut mieux passer sur LibreOffice, que nous, association, on n'a pas d'intérêt particulier à choisir l'une ou l'autre, mais on conseille nos utilisateurs de passer sur LibreOffice, puisque effectivement, tout le code est maintenu, tous les gros opérateurs et éditeurs qui participent à ce développement sont passés sur LibreOffice.
D'accord, alors on va justement aborder cette notion des éditeurs et des gens qui contribuent. Philippe et Stéphanie, est-ce que vous voulez compléter ce petit historique sur justement LibreOffice et The Document Foundation, parce que tu as parlé d'une fondation, c'est la Document Foundation qui a été créée. Donc, alors en quelle année, Philippe ?
Document Foundation en 2010, voilà. Effectivement, et donc ça c'était un point que je voulais effectivement rajouter. Donc la création de LibreOffice en 2010, ça veut dire que c'est déjà un produit qui a 9 ans, qui a une belle solidité, c'est un des points à soulever. Voilà. Document Foundation,
En quelques mots déjà.
En quelques mots, The Document Foundation, c'est un organisme à but non lucratif et dont l'objectif est la gouvernance du projet LibreOffice en particulier.
D'accord. Voilà. Stéphanie, Robert, est-ce que tu veux compléter la partie historique ou c'est bon ?
Elle me semble complète. Juste pour accrocher les wagons avec la mouette, l'idée de l'association de la mouette, à la base, c'était de prendre le relais justement de See You Soon, qui était l'entité morale donc de la communauté d'OpenOffice, suite au fork OpenOffice, LibreOffice. C'est donc la mouette qui est l'entité morale pour... Merci, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Et du coup, j'ai perdu le fil, je vous prie de m'excuser.
Tu parlais de la mouette, l'entité morale, donc en France.
Oui, totalement. Là où je voulais en venir, c'est que du coup, suite au fork d'OpenOffice et LibreOffice, c'est la mouette qui a pris le relais et que depuis lors, eh ben, l'association a été créée justement pour tenir ce rôle-là.
Donc voilà, petit historique qui montre déjà que c'est très ancien. Alors les plus anciens se souviennent sans doute effectivement de Star Division, Star Office et ensuite ce qui est devenu OpenOffice, le rachat de Sun Microsystems par Oracle. On peut dire aujourd'hui qu'OpenOffice effectivement n'est plus en gros maintenu, en tout cas n'évolue plus, même s'il est encore utilisé, comme le dit Christophe, par de nombreuses personnes. Et qu'une des actions à mener, à faire, est évidemment de convaincre ces gens-là de migrer vers LibreOffice. Mais je dirais que la deuxième question que je vais vite poser, c'est pourquoi utiliser une suite bureautique libre ? Parce qu'on va supposer que les personnes qui nous occupent majoritairement utilisent une autre suite bureautique, hein, sans doute la suite Office de Microsoft ou une autre. Peut-être que certaines utilisent d'ailleurs OpenOffice ou LibreOffice et ne savent même pas que c'est une suite bureautique libre. Mais quelles sont déjà les raisons qui font qu'on doit utiliser une suite bureautique libre ?
Allez, je prends.
Philippe
Donc, déjà, des avantages liés au logiciel libre d'une façon générale. Hein. Je ne vais pas développer l'aspect gratuit, ce n'est pas gratuit. Il n'y a effectivement pas de coût d'acquisition, pas de coût de mise à jour. Donc ça, c'est quand même un point important. Il y a évidemment des coûts de migration, des coûts de support, des coûts de maintenance, c'est clair. Donc comme tout autre logiciel libre. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre point important, c'est l'aspect transparent. Donc la transparence et la confiance qui en découlent. Donc, point commun aussi au logiciel libre. De cette transparence aussi naît le fait qu'on puisse suivre très efficacement les évolutions. On sait ce qui va se passer, on sait ce qui arrive, on sait quelles sont les nouvelles versions, ce qui est incorporé dans ces versions. Et puis, un point fondamental, c'est l'ouverture également de ces logiciels, donc l'interopérabilité. Je pense qu'on reviendra sur le format de document ODF, mais LibreOffice, c'est une garantie d'ouverture et d'interopérabilité.
Voilà. Alors, on reviendra à la fois sur le format et aussi sur le terme interopérabilité que les gens ne connaissent pas forcément, même si on l'a déjà employé évidemment dans cette émission. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur pourquoi utiliser une forme, toi en tant que d'ailleurs professionnel, quels arguments tu utilises quand tu dois convaincre des gens de migrer vers une suite bureautique libre et en l'occurrence LibreOffice ?
Alors, pour répondre à ce que dit Philippe, en premier lieu, au-delà du coût, bien sûr, à savoir que ça réduit certains le coût des licences, un logiciel libre n'est pas pour autant gratuit. Hein. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il est gratuit parce que quelqu'un l'a payé avant nous, avant. Donc, il est plus accessible, c'est un argument recevable. Il permet aussi une transparence, comme le dit Philippe, et puis une simplicité dans les montées de versions. C'est-à-dire que jusqu'alors, on a des contraintes commerciales qui nous poussent, tous les 10 ans ou un petit peu moins, à changer de version, à faire une mise à jour. Donc ça a un impact bon financier, je l'ai dit. Ça peut avoir un impact aussi sur le parc. Ça nécessite des fois de mettre à jour d'autres choses, des composants, du matériel.
Le parc informatique.
Totalement. Donc l'intérêt, c'est que non seulement on est libre de choisir quand on monte version, on peut vérifier si le logiciel fait toujours bien son travail. C'est l'intérêt du libre, il est très transparent. S'il continuera à le faire bien, donc ça a une certaine sécurité. Et puis c'est un modèle qui se veut plus durable, tout simplement, et plus pérenne. L'autre avantage aussi, c'est qu'à partir du moment où on en reparlera après, mais mon logiciel génère des fichiers qui sont interprétables par d'autres logiciels. Si un jour j'ai un problème avec mon éditeur, si un jour j'ai un problème avec mon logiciel, je change d'éditeur, je change de logiciel, mais je garde mes fichiers. Et ça, en termes de durabilité, de pérennité, ce n'est pas possible avec un modèle propriétaire dont lui appartient et le logiciel et nos données.
Alors ça, c'est un point important, d'ailleurs qu'on va l'aborder un petit peu tout de suite, Christophe Cazin va peut-être pouvoir répondre, parce que j'ai sous les yeux une intervention récente d'un sénateur dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, qui évoque le fait qu'il utilise LibreOffice, donc en logiciel libre, hein, pour vraiment des raisons volontaires, voilà, mais qui se pose des questions, notamment sur la pérennité des données. Il dit notamment, est-ce qu'il y a une garantie de la pérennité de mes données, car l'association qui l'anime peut disparaître du jour au lendemain. Ça va être l'occasion de préciser que c'est pas forcément qu'une association qui est derrière LibreOffice. Le deuxième questionnement, c'est, et il ne m'apporte aucune garantie en matière de sécurité. Alors justement, sur la première question, la pérennité des données, Stéphanie Robert a commencé à parler du format de document, donc format ouvert, etc. Quelle est la réponse qu'on peut apporter à ce sénateur, Christophe Cazin?
Alors, en fait, effectivement, quand il se pose la question de la pérennité du produit, il faut savoir que, justement, le fait d'être passé d'OpenOffice à LibreOffice a démontré que, avec l'abandon du support de la grosse société américaine, on a pu récupérer le logiciel et le refaire tourner dans un autre contexte et lui redonner une nouvelle énergie. Ce qui n'est pas le cas quand des grosses sociétés abandonnent leur propre logiciel et laissent tous leurs utilisateurs en plan. Hein. C'est arrivé avec de nombreux produits. Là, on sait que Internet Explorer est abandonné. On sait que dans l'histoire des logiciels, il y a beaucoup de logiciels qui ont été abandonnés avec leurs droits et qu'ils sont irrécupérables. Là, on a démontré justement qu'un logiciel d'une complexité intense, hein, puisqu'il y a plusieurs, une dizaine de millions de lignes de code, peut-être plus, donc un gros logiciel peut être récupéré, même si effectivement il est abandonné par son éditeur principal, par le fait même qu'il soit open source, et ça lui donne une pérennité.
C'est pas une garantie à 100%. Mais c'est la seule possibilité de conserver effectivement et de faire évoluer ce logiciel parce qu'il est libre.
Disons qu'à partir du moment où le logiciel a un intérêt, il va vivre. Si un jour LibreOffice est abandonné, c'est parce que il y aura quelque chose de mieux qui va le remplacer. Mais tant que on laissera jamais les utilisateurs en plan, parce qu'il y aura forcément une communauté qui va s'intéresser à eux et qui va pouvoir poursuivre ce travail, ce qui n'est pas possible avec un logiciel propriétaire.
C'est le cercle vertueux du logiciel libre, quoi. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de contributeurs qui sont intéressés pour satisfaire les utilisateurs, plus il y a de sociétés qui s'intéressent aussi à ça, qui proposent une offre de service, et donc plus il y a d'utilisateurs et on boucle.
Donc plus il y a un intérêt convergent qui permettent de faire évoluer le logiciel et de le maintenir. Donc ça, c'est sur la partie logiciel libre et sur la partie donc, des données, parce que ce sont deux choses différentes. Il faut essayer de faire comprendre un peu aussi aux gens que ce sont deux choses différentes. Donc c'est quoi un format de données, d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un peut essayer de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent ce que c'est qu'un format de données et ce que c'est qu'un format ouvert?
Un format de données, c'est en informatique, c'est une suite de 1 et 0, mais qui est soit documenté, soit qui n'est pas documenté. Si vous avez un format de données et vous n'avez pas l'expression, à quoi servent ces 1 et ces 0, bah, vous ne pouvez pas les utiliser. Si vous avez un format de données ouvert, documenté et libre d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, utiliser ce format-là pour l'implémenter dans n'importe quel autre logiciel, vous pouvez construire un logiciel autour, puisque vous avez la documentation, vous avez le droit de le faire, et ça vous permet de ne pas perdre vos données dans l'avenir. À partir du moment où vous aurez gardé une trace de ces documentations, eh bien, vous pourrez toujours réimplémenter ces formats de données.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un format ouvert.
Ouais. J'ai connu
et donc le format ouvert de LibreOffice, enfin de LibreOffice en tout cas, l'un des formats ouverts que LibreOffice ouvre et sauvegarde, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe Elmel, c'est ODF, donc Open Document Format.
Oui, tout à fait.
Donc format document ouvert.
Oui. Il y a une quinzaine d'années, par exemple, j'ai vu on avait un logiciel de GED propriétaire avec des formats
GED,
de gestion électronique de documents. Oui, excusez-moi. Propriétaire qui, l'éditeur a disparu et en fait, ont disparu avec la possibilité de traiter les documents qui étaient dedans. Donc en fait, les gens qui avaient choisi ce produit-là ont perdu les documents qui étaient dedans parce qu'ils ne pouvaient plus les sortir du logiciel. Donc ça, on peut l'éviter, il faut l'éviter à tout prix, et avec un format de document ouvert, c'est ce qui garantit la plus grande pérennité dans l'avenir des documents qu'on met dedans, que ce soit des textes, des images, des photos et tout autre type de documents.
Documents. Ouais. Donc pour répondre à ce sénateur, la réponse, ce sont les formats ouverts et aussi la partie logiciel libre sur la partie sécurité. Donc on lui transmettra évidemment le podcast de cette émission. Tu voulais compléter, Christophe ?
On ira plus loin même. J'ai pris contact en fait avec la DSI du Parti communiste et qui pourra nous proposer
un entretien. Alors, je précise qu'en fait la question de ce sénateur
c'est le rôle de la mouette
est peut-être une question dont il connaissait déjà la réponse, car c'était dans le cadre d'une audition. En fait, il interrogeait Henri Verdier, ancien DSI de l'État, directeur informatique de l'État. On peut supposer, en plus connaissant un peu ce sénateur, qu'il connaissait un petit peu la réponse, mais c'était une façon d'amener ces sujets sur la table. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur la partie format ouvert, open document format?
Pour le mettre en lien, ce qui peut être apprécié avec l'outil de bureautique, c'est bien souvent il est lié à d'autres applicatifs. L'intérêt d'un format standard, c'est cela. C'est-à-dire que si les applicatifs sont ouverts à l'ODF, on a vraiment la possibilité de coupler notre outil de bureautique et tous les autres applicatifs avec des restitutions des formats de fichiers impeccables et puis des gestions de style, par exemple, et de mise en forme, qui sont déjà intégrées, interprétées par les applicatifs. Donc, ce qui boucle la boucle. Voilà. Un format standard est accessible et ergonomique.
Et j'ai précisé tout de suite, même si on abordera sans doute le sujet dans le cours de l'émission concernant les institutions, les administrations, il y a un référentiel général d'interopérabilité qui existe depuis de très nombreuses années et qui a vécu de nombreuses versions. Et il faut préciser que la dernière version, qui est de 2016, met le format donc ODF, on l'appelait ODF pour plus simplement, comme version recommandée à utiliser dans les administrations, et que le format de Microsoft, donc OOXML pour Office Open XML, est mis en catégorie en observation.
En observation. Oui.
Et le document explicite et clairement des manques dans ce format de Microsoft, et donc recommande l'utilisation du format ODF pour les administrations. Donc c'est le RGI, la dernière version de 2016. Alors, on va poursuivre maintenant un petit peu pour expliquer un peu les fonctionnalités. Oui, tu voulais compléter?
Je peux compléter deux choses sur le format. Effectivement, bon, ce qui a à noter aussi, c'est que c'est géré par un consortium indépendant, l'Oasis, que c'est un format normalisé. Et donc, premier point positif, c'est l'indépendance vis-à-vis de tout éditeur. Donc, c'est un point à noter. Et puis, un petit aspect important aussi, c'est sa simplicité de ce format-là, justement comparé à OpenXML de Microsoft Office. Il n'y a qu'à compter le nombre de pages des spécifications. Ça n'a rien à voir.
C'est rapport 10. Hein.
Oui, rapport 10, tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point important quand on veut le mettre en œuvre. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que le format concurrent, on va dire.
Alors, à ce sujet-là, je vais juste lire un extrait du référentiel général d'interopérabilité concernant le format Microsoft et pourquoi il est au statut observation. Les raisons, c'est sa complexité, son manque d'ouverture, notamment dans la gouvernance de la norme, et le strict respect tardif de la norme par Microsoft même, n'ont pas permis de réviser son statut, donc de le laisser en observation. Donc on explique très clairement que, contrairement au format ODF, comme tu viens de l'expliquer, ce format de Microsoft est problématique à la fois par son contenu très compliqué, et puis aussi par tout simplement sa gouvernance, et même Microsoft, évidemment, mais c'est un peu traditionnel avec Microsoft, ne respectait même pas son propre format de façon assez volontaire pour éviter évidemment d'avoir des concurrents. Alors, on a parlé pas mal de formats, un petit peu avant de ce qu'on avait prévu de faire, mais c'est pas très grave. Là, on va revenir un petit peu sur LibreOffice, ça va nous permettre un peu de répondre indirectement à la question du quiz tout à l'heure sur les fonctionnalités de LibreOffice et des modules. Parce que bon, des suites bureautiques libres, enfin des outils bureautiques libres, on en a connu certains, mais une des caractéristiques de LibreOffice d'un point de vue technique, c'est ses fonctionnalités. Ça fait beaucoup de choses, LibreOffice. Alors, est-ce que succinctement, entre guillemets, on peut passer en revue les principales fonctionnalités de LibreOffice ? Stéphanie ?
Eh bien oui, c'est un produit complet, hein, puisqu'on va retrouver du traitement texte, du tableur, du diaporama, du dessin vectoriel, un logiciel de base, mathématiques. Et je me demande s'il n'y en manque pas un. Vous envoyez un autre ?
Non.
Tu en as cité combien, là ? Excuse-moi.
6,
il y en a 6. En fait, oui, il y en a 6. Donc, bon. La réponse au quiz de tout à l'heure, c'est qu'il y a 6 modules, ou en tout cas 6 grosses fonctionnalités dans LibreOffice.
Et puis le tout avec des fonctionnalités répondant aux usages classiques, courants et avancés, hein, puisque si on reste d'un point de vue pragmatique, un tableur reste un tableur, un traitement de texte reste un traitement de texte, et ainsi de suite. Donc de Microsoft Office à LibreOffice, on va retrouver les mêmes choses, voire même mieux des fois, parce que mieux interprété, mieux géré. Que dire d'autre ? Le point fort, je dirais, ce serait la gestion des styles de mise en forme. Je ne sais pas si tout le monde te connaît.
Alors, explique ça, parce que c'est un point essentiel dans la bureautique. Je pense que pas grand monde n'utilise ou ne maîtrise.
Bah, c'est vrai que ça fait partie des choses méconnues, mais qui sont fondamentales dans le traitement de texte. C'est le nerf de la guerre de la bureautique, c'est la gestion des styles. Donc typiquement, si je dois faire une analogie, qu'est-ce qui fait qu'un site internet est restitué identiquement, quel que soit notre ordinateur, notre smartphone, notre tablette ? C'est qu'il y a des standards, et que tout est régi par des titres 1, des titres 2, du corps de texte, et bien c'est pareil en bureautique. Donc LibreOffice est très carré, on a des outils pour automatiser la mise en page, avec des paragraphes, des titres 1, des titres principaux, des styles de page, qui nous permet d'appliquer aux paragraphes différents styles de mise en forme de façon automatique. Je ne fais qu'une fois ma mise en forme et je la répète dans mon document. Donc ça, c'est intéressant pour les particuliers, c'est intéressant pour les collectivités, qui ont bien souvent une image, avec des logos, une charte graphique. Donc ça fait partie des points forts de LibreOffice. Il y a aussi des versions applicatives de LibreOffice pour la lecture d'ODF sur les tablettes et smartphones, en lecture pour l'instant et en bêta pour l'édition. Et il y a une version en ligne, dont on parlera sûrement tout à l'heure, de LibreOffice, qui est un des points forts aussi de cette suite-là. Donc c'est un produit en évolution constante, performante, qui répond, je pense, à des usages personnels et professionnels totalement.
Alors, je vais laisser compléter Christophe et Philippe, mais juste pour préciser, parce que sur le salon web, on nous a signalé notamment le module, alors je ne sais pas si c'est un module, mais extérieur, qui est Grammalect, pour la correction grammaticale. C'est aussi une des forces du logiciel libre d'avoir des modules complémentaires qui viennent du monde du logiciel libre et qui permettent de former un tout encore meilleur. Donc sur cette partie fonctionnalité, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, Christophe ?
Alors, je voulais dire, pour Grammalect, la Mouette est un sponsor de Grammalect, puisque si vous installez Grammalect, vous faites à propos sur Grammalect, vous verrez la Mouette qui sort en sponsor principal.
Alors, je ne savais pas, j'ai cité Grammalect sans savoir ça.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un produit de correction grammaticale et orthographique qui est vraiment top et qui est intégré, on en parlera tout à l'heure, dans la version MIMO. Autre chose qu'on n'a pas cité tout à l'heure dans les grands avantages du logiciel libre et en particulier sur LibreOffice, c'est qu'il existe une version pour tous les systèmes d'exploitation. Et moi qui travaille sous Linux, je suis heureux d'avoir une suite bureautique sous Linux alors que je ne peux pas installer la suite de Microsoft sur un poste Linux.
Donc en fait, il en existe sur GNU Linux, il en existe sur macOS, sur Windows, etc.
Tout à fait. Voilà. Non, sur BSD, sur des processeurs ARM, on peut faire tourner LibreOffice. Le fait que le code soit libre, on peut l'intégrer sur tout type de processeur et tout type de logiciel, de système d'exploitation.
Et ça me permet de préciser que ce n'est pas le seul outil grand public comme ça. Il y a aussi d'autres outils comme par exemple VLC pour lire de la vidéo. Et que ça permet à des gens qui veulent commencer d'utiliser LibreOffice sur leur plateforme, que ce soit Microsoft ou autre, et ensuite quand elles vont migrer sur un système entièrement libre, que ce soit un GNU Linux ou un BSD, elles vont retrouver le même outil,
exactement,
avec la même version, avec les mêmes fonctionnalités globalement qu'elles avaient sur l'autre plateforme. Philippe, tu veux compléter cette partie-là ?
Oui, tout à fait. Donc, on a cité l'extension Grammalect, mais ce n'est pas la seule. Hein. L'intérêt aussi de cet environnement LibreOffice, c'est qu'il y a un écosystème derrière avec des développeurs qui proposent d'autres extensions. Donc, je pense que Christophe t'en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans le LibreOffice Mimo, typiquement, il y a pas mal d'extensions qui sont également intégrées. Donc, il y a des. Voilà, c'est un peu comme le système Firefox, et c'est un des intérêts. On peut trouver un certain nombre d'extensions pour différents besoins. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre petit avantage qu'on cite souvent également, c'est l'export PDF qui est excellent de LibreOffice. Et donc comme c'est un format PDF, quelle que soit sa version d'ailleurs, qui est intéressant, très utilisé, moi je détecte tout de suite qu'un PDF est fait par LibreOffice parce qu'il est quand même mieux foutu, on va dire, que par un autre logiciel.
Très bien, on va voir si la régie... Ah, j'allais essayer de tendre un piège à la régie en disant qu'on allait faire une pause musicale, mais on va faire une pause musicale. Nous allons écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra.
Cause commune. Yeah.
My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra. C'est sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais en profiter pour répondre à la première question du quiz de tout à l'heure que je demandais. Donc lors de l'émission du 18 juin, a été évoqué un nouveau projet de Framasoft, un nouveau service libre dont l'objectif est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook et Meetup. Je demandais quel était le nom de ce projet et comment s'écrit-il. J'ai pas eu de réponse, donc visiblement les gens n'ont pas forcément trouvé. Donc le nom du projet c'est Mobilisons, mais ça s'écrit avec un Z-O-N. Et il y avait un objectif de financement de 50 000 euros. Nous sommes à 15 jours avant la fin de la campagne. Et actuellement, c'est 48 158 euros. Donc, il manque pas grand-chose, franchement, chers auditeurs et auditrices. Donc, si vous voulez contribuer, vous allez sur le site joinmobilisons.org. Donc, mobilisons avec un Z et sans S à la fin. Ou sur le site de Framasoft, framasoft.org. Bon, nous allons poursuivre notre sujet donc, sur la bureautique libre. Donc, avec toujours nos invités, donc Christophe Cazin, Stéphanie Robert et Philippe Hemel. Sur le salon web de la radio, donc c'est sur causecommune.fm, on a une question, c'est la question, alors je la retrouve. Comment on installe LibreOffice? Alors, on va supposer que c'est dans un cadre particulier, donc sur un ordinateur particulier. Stéphanie Robert.
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site officiel, hein, fr.libreoffice.org, et puis de télécharger tout simplement via l'invite de la page d'accueil, la dernière version stable délivrée par la communauté. Après, depuis ce site-là, on a la possibilité d'ajouter ou non des extensions pour accéder peut-être à des fonctionnalités supplémentaires. Il y a Gramalet qu'on a cité, mais il y a tout un tas d'autres extensions qui permettent de personnaliser son LibreOffice à ses usages.
Donc c'est tout à fait simple. Et sur les environnements libres, notamment, vous avez des magasins d'applications, je crois que c'est le terme français, sur lequel vous cherchez tout simplement LibreOffice et vous allez l'installer. Vous aurez l'ensemble des modules, les 6 modules installés par défaut. Tu voulais compléter, Christophe ?
Non.
Ah, d'accord, je te voyais t'approcher du micro.
On m'a dit de m'approcher du
micro.
Ah
oui, c'est vrai. Donc, je répète que voilà, en régie, Étienne nous a dit de parler près du micro pour que les gens entendent bien. Donc ça, c'est l'installation. On verra tout à l'heure sur la partie pour les professionnels et puis aussi les collectivités, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pas juste installer. On profitera de l'expérience notamment de Stéphanie Robert. Mais là, on va aborder une question que posait indirectement d'ailleurs le sénateur dont je parlais tout à l'heure et puis que se posent sans doute beaucoup de gens. C'est comment est développé LibreOffice? Par qui? Parce que c'est un énorme projet. Tout à l'heure, Christophe Cazin parlait de millions de lignes de code. Donc, qui développe LibreOffice et pour quelles raisons? Alors, Philippe Hemel de Document Foundation.
Donc, je reviens un petit peu sur la fondation, justement, The Document Foundation. Donc, la fondation, comme je disais, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, elle est là pour piloter le projet. Donc, elle est complètement indépendante de toute société particulière. D'ailleurs, dans ses statuts, une société ne peut pas prendre le contrôle de cette fondation. Donc, elle est constituée de membres qui élisent ce qu'on appelle un board des directeurs.
Un conseil d'administration.
Exactement. Et donc, c'est un système un peu donc méritocratique, enfin complètement même. Et donc, c'est les membres de la fondation qui élisent ce board, ce conseil d'administration, pardon, en français. Donc, il y a une structure en place. C'est pas le seul comité, ce board-là. Il y a d'autres structures qui sont intéressantes de citer, telles que l'Engineering Steering Committee, ESC, on va dire.
Et donc en français ?
En français.
Comité technique, on va dire.
Ouais, voilà.
D'ingénierie.
Tout à fait. Exactement. Ouais. Comité technique qui a des réunions hebdomadaires qui sont complètement ouvertes. On peut savoir ce qui s'est dit. Ça, c'est un point important, typique d'un logiciel libre. Et donc, on peut savoir quelles sont les décisions prises par ce comité technique, dans quelle direction va évoluer le produit. Donc, il y a ça. À noter aussi l'advisory board, on va dire le bureau de conseil.
Le groupe de conseil,
qui est constitué d'un certain nombre de sociétés qui n'ont pas de rôle de direction du tout, mais juste de support conseil. Voilà. Parmi ces sociétés-là, je vais le citer quand même, il y a Google, par exemple. Il y a la ville de Munich, il y a d'autres sociétés. Voilà.
La ville de Munich, ce n'est pas une société, c'est une ville, mais oui. qui a eu un long historique avec le logiciel libre.
Exactement, tout à fait.
Mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même avec des structures ayant a priori des intérêts très différents, peut-être même divergents des fois, se retrouvent derrière une fondation qui développe un logiciel libre.
Tout à fait, Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que la fondation donc, ne salarie aucun développeur. Donc, ce n'est pas du tout la fondation qui développe le projet LibreOffice. Mais là, ce sont d'autres membres, des individus, beaucoup de sociétés qui interviennent sur le sujet et donc qui proposent des développeurs pour faire avancer le logiciel. Pourquoi des sociétés proposent des développeurs?
Oui, ça paraît surprenant. Quoi.
Bah oui, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, ce n'est pas uniquement des sociétés philanthropiques, hein, puisque dans le temps, on a rappelé Christophe cita IBM, hein, on ne voit pas IBM comme une société purement philanthropique. Effectivement, ces développeurs sont mis à disposition du projet parce que, en fait, la société est intéressée d'une part par le projet et son principe, mais aussi parce qu'elle a un autre modèle économique qui est souvent basé sur le support et la maintenance et qui fait que plus elle contribue, plus elle est crédible pour proposer du support et de la maintenance aux entreprises et aux administrations qui déploient du LibreOffice. Donc voilà. Donc il y a un autre modèle économique qui fait qu'il y a plusieurs sociétés qui vont proposer ce type d'offre. Et donc plus il y a de sociétés qui proposent cette offre et plus le produit est solide, c'est pour ça que le produit a 10 ans aujourd'hui et qu'il a montrer sa solidité. Voilà. Je peux citer quelques sociétés, hein, les principales sociétés qui contribuent et qui proposent des développeurs sont Collabora, qui est une société anglaise, Red Hat, que les techniciens connaîtront, malgré mon accent, et CIB, une société allemande aussi qui contribue beaucoup.
Quelle société ?
CIB.
D'accord, ok.
Moins connue.
Okay. Alors Red Hat édite notamment une distribution GNU Linux, alors à la fois une version communautaire, propose une version communautaire et une version, on va dire, entreprise. Donc des intérêts vraiment très divergents. Et donc le rôle de la fondation, c'est de, vu qu'elle ne développe pas, c'est de garder, on va dire, l'esprit du projet, la direction du projet.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces conseils techniques, son conseil de pilotage, c'est de voir comment on utilise les fonds aussi de la fondation, puisque la fondation a des fonds, essentiellement par des dons. Et ces fonds sont essentiellement utilisés pour les quelques salariés de la fondation, il n'y en a pas beaucoup, une dizaine on va dire. Et puis les équipements, les serveurs qui vont héberger les outils de traduction, les outils de test, etc. Il y a beaucoup d'outils hein, pour faire tourner ce logiciel, beaucoup d'outils auxquels les membres et d'autres, tous les contributeurs ont accès pour proposer, par exemple, la traduction française ou la traduction en basque ou je ne sais quoi. Tiens, c'est un avantage qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Il y a énormément de traductions de LibreOffice, donc on peut l'avoir dans des langues très, très variées.
Qui est un des avantages globalement du logiciel libre et qui ne dépend pas d'un marché économique, qui dépend simplement de l'envie de gens de faire ces traductions.
Tout à fait.
Christophe Cazin ou c'est Stéphanie Robert, est-ce que vous voulez compléter sur cette partie qui développe et maintient le LibreOffice?
Bah en fait, non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point.
Alors, le site web de la Document Foundation, c'est documentfoundation.org?
Oui.
D'accord.
On pouvait parler de l'accessibilité avec IPRA.
Je voulais parler, je sais pas, on le fera peut-être plus tard, de la communauté francophone ou française francophone, quoi. Aussi.
Alors, on peut en parler maintenant, parce que, comme je vous l'ai dit avant l'émission, le temps passe très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense pendant une émission. Donc, si vous voulez en parler rapidement de la communauté francophone, parce que là, on l'a bien dit, Document Foundation, c'est international.
Oui.
L'association, enfin, la fondation est de statut allemande. Donc, la communauté francophone.
Oui, donc il y a une belle communauté francophone avec des développeurs et des intervenants divers, très fidèles, en fait, sur le projet. On a l'occasion d'ailleurs de se retrouver régulièrement parce qu'on organise des ateliers, souvent à Paris, pour de la traduction, du test, etc. Donc ces développeurs indépendants, on a cité par exemple la personne qui fait Grammalect, hein, puis qui est directement intéressant pour LibreOffice, mais également d'autres, alors je ne vais pas tout citer, mais on a cité la société IPRA qui travaille sur l'accessibilité, donc voilà. On a aussi d'autres sociétés qui supportent le projet, justement je parlais des ateliers ou du... On s'y parlera, je pense, du Hackfest qui aura lieu à Paris bientôt, mais on a la société InnoCube qui supporte le projet également par la fourniture de locaux et plus. Donc voilà, c'est intéressant de noter cette activité, en fait, au niveau de la communauté francophone.
D'accord. Alors, tant qu'on est à la communauté francophone, et après on parlera administration et collectivité, notamment aussi migration, et puis groupe MIMO, parce que depuis tout à l'heure, on parle du groupe MIMO, et je pense qu'on a oublié de ce que c'est. Sur la Mouette, rapidement, sur la communauté francophone, La Mouette.
Alors,
Christophe.
La Mouette, en fait, est née en 2009, au moment où, effectivement, OpenOffice a pris son essor. Le statut de La Mouette, à l'origine, c'était vraiment le support de la communauté OpenOffice. Au moment où Oracle a abandonné OpenOffice, nous, on a changé nos statuts et on ne voulait pas se faire avoir une autre fois. Donc, en fait, La Mouette a repositionné en fait, son statut sur le support de la bureautique ouverte et du format ODF, hein, ce qui nous permet de supporter activement LibreOffice, qui est le principal produit qui anime notre association. La mouette, en fait, assure un certain nombre de représentativités dans les salons pour justement expliquer ce que c'est que la bureautique ouverte et ce que c'est que LibreOffice. Nous avons le droit d'utiliser le trademark LibreOffice avec un accord avec The Document Foundation. Donc, on est aussi bien parfois notre petit panneau La Mouette, mais un grand panneau LibreOffice. Et les gens viennent nous demander dans les salons, c'est quoi la différence avec OpenOffice comment on l'installe et toutes les questions qu'on se pose dans cette émission. Et ça nous, on fait beaucoup de salons informatiques d'une manière générale, mais on a fait aussi des salons un peu plus grand public comme Prime Vert à Lyon et la Fête de l'Humanité. Voilà, donc tous les salons qui nous acceptent et où le droit d'entrée en fait n'est pas insupportable pour notre petite association.
Excellent. Alors, ça fait penser sur les marques déposées que c'est important, cette marque déposée LibreOffice, parce que ça garantit une certaine... ça garantit le logiciel, en fait, sa provenance. Je crois avoir vu passer récemment des news comme quoi il y avait des gens qui prenaient des logiciels libres, les modifiaient, remettaient un nom et puis faisaient à peu près n'importe quoi. Donc, le fait qu'il y ait cette trademark, ça explique le... C'est important, voilà, que la Document Foundation est responsable de cette trademark et décide quand les gens ont le droit de l'utiliser.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher LibreOffice sur les sites... À la source, sur le site qu'a cité Stéphanie pour la version française, et pas aller taper LibreOffice dans un moteur de recherche quelconque et d'arriver sur n'importe quel lien, parce que là, on peut tomber sur des produits qui ne sont pas très fiables.
Donc, et c'est vrai pour tous les logiciels libres, malheureusement. Oui, il y a des gens qui se comportent très mal, donc allez à la source. Alors, tout à l'heure, Stéphanie, tu as expliqué comment installer LibreOffice pour une personne. Mais évidemment, dans le cas d'une institution, soit une entreprise, une collectivité, c'est un peu plus compliqué parce que, on a eu récemment Laurence Compara, donc adjointe à la ville de Grenoble, qui nous expliquait notamment la migration en cours de LibreOffice, les questions d'adhérence aux outils métiers, etc. Donc toi, tu es chef de projet donc de cette migration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quoi consiste une migration dans une collectivité, les points auxquels il faut faire attention et le temps que ça prend pour migrer correctement d'un environnement donc totalement propriétaire à un environnement de bureautique libre.
Je pense que c'est la même logique pour tout le monde, pour tous ceux qui font le choix de migrer. Après, ce ne sera pas le même mode opératoire. Pour faire simple, au gré des retours déjà que nous avons en tant que La Mouette, d'autres collectivités qui ont migré, et au vu de ce qui se passe à Grenoble, je dirais que c'est un projet qui, d'une migration, se veut avant tout être un projet humain que technique. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur la technique, alors qu'en réalité, il va s'agir surtout de s'axer sur les ressources dont on va avoir besoin, pour savoir que c'est un projet comme un autre qui va nécessiter quand même une équipe dédiée, idéalement sensibilisée au libre, ou du moins qui connaisse son fonctionnement, et aussi s'attendre à ce que il y a des êtres humains derrière les ordinateurs, nous sommes tous frileux face au changement, qu'il va y avoir de la conduite du changement à mettre en place. Et je pense que les points clés, c'est avant tout ça, cet aspect humain. Donc, pourquoi ce n'est pas technique, à mon sens, c'est parce que c'est avant tout des points d'accompagnement. On parle des applicatifs métiers. Il y a des adhérences à certains applicatifs métiers, mais cela ne concerne pas tous les applicatifs. Et puis, il y a différents niveaux d'adhérence. Une application métier qui n'exporte, par exemple, qu'en format Microsoft Office, XLSX ou DocX, ce n'est pas un point bloquant. Pour mémoire, en effet, LibreOffice est capable d'interpréter les formats de Microsoft Office, donc tout va bien. Donc il y a différents niveaux de compatibilité, je dirais, des applications métiers, mais ce n'est pas un point bloquant. Selon les retours qu'on a, il y a entre 80% des postes de travail ou 60% des postes de travail qui vont migrer totalement à LibreOffice. Et le reste, c'est ponctuel. Il y a aussi un accompagnement à prévoir dans la reprise des fichiers, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait la majorité des fichiers qui soient repris naturellement de Microsoft Office à LibreOffice, mais il y a des points d'accompagnement. C'est à prendre en charge dans le cadre du projet. Et puis ensuite, bien sûr, il y a de la formation. Dans la conduite du changement, on a des clics au moment où on clique et on reclique. Donc il faut mettre en place des formations pour que les agents retrouvent leurs repères. Et puis de l'assistance et du support. Je pense que ça, c'est les grandes étapes à mettre en place. Et nous préconisons de préparer la migration avant de passer au nouvel outil, en sachant qu'idéalement, l'outil doit être installé le plus tôt possible. Et que la migration se matérialise idéalement lorsque les agents sont formés et ont l'occasion en effet de cliquer et d'utiliser le nouvel outil. Il y a un point qui est important aussi, c'est que bien souvent ça se fait naturellement lors de l'analyse des usages, c'est que la migration c'est souvent l'occasion d'optimiser les usages. C'est-à-dire que souvent les agents produisent, n'ont pas l'occasion de remettre en question forcément les process, les protocoles ni les fichiers. Et là, souvent, on se rend compte qu'on peut simplifier optimiser, mettre à disposition des nouveaux outils. On en a parlé tout à l'heure, il y a les fichiers modèles notamment, c'est un cas typique. Mettre à disposition des nouveaux fichiers modèles à la charte, avec tous les outils automatiques qu'on peut ajouter avec LibreOffice, des sommaires automatiques, numérotation des pages, et j'en passe. Tout ça, ça fait que la migration peut se passer en douceur et bien. Puisque concrètement, une fois qu'on a passé le déclic psychologique de « j'ai besoin de retrouver mes repères », en fait, on a pourtant des bons retours de la part des agents qui trouvent que la suite est plus ergonomique, plus simple.
D'accord. Philippe, tu voulais compléter quelque chose? Je te voyais, Philippe Hemel, sur la migration.
J'ai acquiescé beaucoup. Oui, tout à fait, oui. Bon, j'ai un lourd passé, on va dire, d'accompagnement de migration également. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphanie. Moi, j'ajouterais peut-être deux points. C'est aussi un sujet où on a besoin d'obtenir l'adhésion des utilisateurs, donc de convaincre. Donc, c'est un sujet de communication aussi. Moi, j'ai pu constater par le passé qu'on y arrive, en fait, hein, en présentant comment ça va se passer, ce qu'il y a d'inclus dans le logiciel, etc. On peut rassurer les utilisateurs et changer leur état d'esprit, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement envie au départ. Et ça se comprend, c'est une réaction normale. D'autre part, il faut présenter les bénéfices. Donc là, on présentait quelques points, par exemple, comme Stéphanie parlait des modèles. Bah oui, on peut aussi faire un packaging personnalisé en ajoutant une galerie d'images spécifique à l'organisation avec les logos, d'autres éléments de type image, avoir une palette de couleurs, avoir un accès direct aux modèles. Par exemple, on fait fichier nouveau modèle et direct, on a les modèles de l'organisation. Donc on peut personnaliser pour faire en sorte qu'il y ait un environnement bureautique meilleur qu'avant.
Très bien. Christophe Cazin, alors, tu as parlé tout à l'heure du groupe MIMO, donc tu vas nous expliquer le groupe MIMO, et puis j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe dans l'administration, dans l'État? On a parlé récemment du CIL qui a été publié, donc le CIL, le SOC interministériel du logiciel libre, donc c'est un peu des logiciels libres, donc un peu la liste des logiciels libres qui sont recommandés, encouragés, je ne sais pas exactement par l'État dans les administrations, et évidemment LibreOffice en fait partie. Donc voilà, donc c'est quoi MIMO et un peu l'État peut-être de LibreOffice dans l'administration?
Alors MIMO, c'est un groupe de travail interministériel qui réfléchit sur le choix d'un certain nombre d'outils libres qui peuvent être diffusés dans l'administration. Alors la règle pour, entre guillemets, être diffusé, il faut qu'il y ait un référent et, si possible, au moins deux administrations qui l'utilisent d'une manière active. À partir de ça, il faut que les gens se mettent d'accord et publient cette liste. Alors MIMO existe depuis plus d'une dizaine d'années. Il est né sur la bureautique libre, justement, sur OpenOffice. Alors MIMO, ça voulait dire mutualisation interministérielle autour d'OpenOffice. Et donc, on vient à garder ce terme pour mutualisation interministérielle pour une bureautique ouverte, mais on a gardé le sigle MIMO puisqu'il était rentré dans le domaine courant. Et donc, le groupe de travail sélectionne un certain nombre de logiciels du CIL, Socle Interministériel Logiciel Libre, et customise une version de LibreOffice particulière. Enfin, il en choisit une pour l'année et il corrige un certain nombre de petits défauts qui sont liés à son utilisation dans les administrations de l'État. Ces correctifs sont reversés à The Document Foundation, qui les utilise ou ne les utilise pas suivant le choix ou la qualité. Une fois que cette customisation est faite, on y rajoute un certain nombre de plugins, dont le célèbre Grammalite dont on en a parlé. Cette année, on a rajouté un plugin important qui s'appelle Lire Couleur, qui permet aux personnes dyslexiques de pouvoir, entre guillemets, adapter le traitement de texte, de corriger en fait le texte, lui rajouter des couleurs suivant les syllabes, suivant les premières lettres, toutes les formes de dyslexie. Et ce produit packagé, en fait, forme MIMO, il est téléchargeable par tout un chacun, y compris les particuliers. Vous, sur un moteur de recherche, vous taperez MIMO, vous pouvez trouver ce produit. C'est une installation qui n'existe que sous Microsoft Windows, puisque la majorité des postes de travail de l'État sont sous Microsoft Windows. Mais par contre, une fois installé, vous y retrouverez un certain nombre d'outils qui sont utilisés par les administrations et qui sont, entre guillemets, vérifiés, comme le publipostage ou des choses comme ça, qui sont des choses courantes utilisées dans l'administration. Et non seulement les administrations de l'État, les ministères l'utilisent, mais aussi beaucoup, beaucoup de collectivités territoriales qui choisissent cette distribution justement parce que elle est vérifiée, corrigée pour le type d'utilisation qu'on en a.
Tout va bien dans l'État pour la partie logiciel libre.
Alors, je dirais tout va bien dans l'État pour la partie logicielle.
Est-ce qu'on a un état des lieux ou pas de l'utilisation?
Oui, on en a un, mais je ne saurais pas dire, entre guillemets, ministère par ministère, qui prend et qui abandonne. Ça, c'est toujours un rythme, c'est des choix politiques qui sont faits. Nous, notre groupe de travail se contente de fournir ces outils-là, ils sont utilisés ou pas. Après, chaque ministère a sa stratégie d'utilisation ou pas de cette suite bureautique. Globalement, ça se tient. C'est quand même très utilisé. Par contre, je vois vraiment beaucoup d'utilisation dans les collectivités territoriales et de plus en plus.
D'accord. Alors, concernant l'État, dans la dernière émission avant la pause musicale le 9 juillet, nous recevrons Bastien Guéry qui travaille à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. On lui posera la question de savoir s'il a des éléments. En tout cas, voilà, le groupe Numo, on a mieux compris. Il nous reste relativement peu de temps, enfin même très peu de temps. Tout à l'heure, dans les questions du quiz, j'avais posé une question sur est-ce qu'il est possible de créer de façon collaborative avec LibreOffice. Je crois que Stéphanie Robert a évoqué LibreOffice Online. Donc, alors rapidement, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est LibreOffice Online? Peut-être Philippe, Emel?
Oui, donc LibreOffice Online, c'est effectivement un éditeur en ligne, accessible depuis son navigateur, avec aucun outil installé sur le poste de travail. Donc il nécessite un autre outil pour gérer les documents. Le LibreOffice Online, c'est uniquement l'édition. Donc on l'adosse à un outil de gestion de documents type Nextcloud ou Alfresco, une autre gestion électronique de documents. Donc on l'installe en général sur les serveurs de l'organisation. Donc ça, c'est une différence. Souvent, on pense que si dans le cloud, non, là, c'est chez soi. Donc avantage, on maîtrise les données, c'est complètement géré. Les points particuliers à noter, c'est que ça s'appuie complètement sur LibreOffice pour le rendu des documents. Donc ça apparaît exactement comme ça va apparaître dans un LibreOffice. Donc il y a une très bonne fidélité de rendu des documents, c'est important. Évidemment, on peut accéder à plusieurs utilisateurs en simultané pour éditer le même document. On voit qui est connecté, on voit ce que font les autres. Donc ça, c'est fondamental aussi. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau usage, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de verrou pour accéder à des documents. Donc on peut dire tel document, le budget, le PLDOF ou je ne sais quoi, votre partie, elle est là, accédez-y quand vous voulez, vous ne serez pas gêné par les autres. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui facilite vraiment la vie des utilisateurs. Et puis, donc des fonctions qui sont essentiellement axées sur la collaboration avec des fonctionnalités avancées qui sont intégrées au fur et à mesure. Il y a une évolution assez rapide du produit.
D'accord, super. En une minute, l'actu. Tout à l'heure, vous avez parlé de LibreFest
Hackfest.
Alors, oui. Le Hackfest, donc ça se passe où et quand?
Alors, ça se passe à Paris, dans les locaux d'InnoCube, Paris 10e. Et donc, c'est le 5 et 6 juillet, j'ai un gros doute tout d'un coup. C'est vendredi et le samedi. 6 et 7
6 et 7 juillet, c'est vendredi et samedi, c'est 6 et 7. Et donc, quel est le public attendu?
Le public attendu, c'est développeurs essentiellement. Et donc, c'est des gens qui ont envie de s'intégrer dans le projet LibreOffice et qui veulent comprendre comment ça fonctionne, comment avancer, comment compiler, développer. Et ils seront encadrés par des gens, des sociétés expertes qui travaillent sur LibreOffice, donc des cadors. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir pour comprendre comment ça marche et d'être le mille-pieds à l'étrier.
D'accord. Alors, 10 secondes chacun si vous avez envie d'apporter un mot de conclusion ou un complément. Christophe Cazin.
Sur la mouette, en fait, on lance notre nouveau site qui a été co-réalisé avec Stéphanie, lamouette.org. Donc, on a un tout nouveau site et on offre à nos adhérents un accès à LibreOffice Online, puisque ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre personnellement, avec un espace disque. Donc, ils pourront tester ce produit en ligne pour tous ceux qui seront adhérents. Rendre la mouette.
Super. Véronique, pourquoi Véronique? Stéphanie Robert.
Eh bien, pour clôturer, oui. Donc, nouveau site internet avec ces fameux témoignages et retours d'expérience, si je reboucle avec les migrations vers LibreOffice pour les collectivités. Donc, on les appelle à témoigner, mais aussi elles peuvent bénéficier des témoignages des autres collectivités. Et puis, s'il faut finir sur une autre note.
La conférence LibreOffice internationale à Almeria en septembre aussi, pour ceux que ça intéresse. 3-4 jours intenses avec beaucoup de présentations de tous les pays du monde qui utilisent LibreOffice. Donc on a une restitution comme ça de l'évolution des migrations un peu partout, c'est très intéressant.
Eh ben, écoutez, on se donne rendez-vous là-bas, enfin, en tout cas les personnes qui seraient intéressées. Donc, je remercie nos invités, donc Christophe Cazin de La Mouette et du groupe de travail MIMO, Stéphanie Robert de La Mouette et chef de projet de la migration LibreOffice à Grenoble, Philippe Emel, The Document Foundation, la société Arawa. Merci à vous et belle journée.
Merci.
Merci beaucoup.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Achetez-moi par Dag Z et on se retrouve juste après.
Petit Moumout, on a encore plus une thune. C'est la merde.
Cause commune.
Ouais.
C'est quand qu'on va faire les courses?
Ben, autant te le dire tout de suite, quand on aura des thunes.
D'accord.
Voilà. À moi, à moi. Je n'irai pas par quatre chemins pour vous expliquer ce qui m'amène ici. Ça fait quelque temps que je suis dans le besoin, il me faut beaucoup plus d'amis. Avec ma copine sur ces aériens, travailler ensemble, ça c'est réussi. Mais quand y'a plus pour l'autre, y'a plus pour l'un, et là bonjour les soucis. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars. Personne. Bon. Allez, s'il vous plaît. D'accord.
Papa.
Une bonne âme.
Est-ce qu'on va partir en vacances cette année?
Bah non. Mais si. Allez, dites-le. Y'a bien quelqu'un parmi vous qui est prêt à aider les petits? Ou un vendeur un peu malin qui va me diffuser dans tout le pays? Oh, faites pas la gueule, je sais bien que c'est la crise et que c'est pas fini. Mais dans mon bled, c'est pas anodin, mais les bagnoles neuves ont bien fleuri. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars.
C'est moi.
Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars. Bon, bah c'est vrai, je fais ce que j'aime. Ouais, mais c'est pas rien. Ouais, ouais. C'est le bonheur. Mais à quel prix?
Ouais.
Au prix qu'avant le mois prochain, faut que je trouve des dates où tout est fini. Oh, achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars.
C'est moi.
Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne coûte pourtant pas si cher que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon. Et moi?
Vous? Ah, bah je vous trouve pas. Ah, si, voilà. Fin de droit. Bon, bah, comment voulez-vous qu'on vous aide en même temps si vous travaillez pas, hein?
Nous venons d'écouter Achetez-moi par Dag Z, donc c'est sous licence art libre. Vous retrouvez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Vincent Calam, jouons collectif. Donc, choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. Témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Donc, c'est ta chronique, Vincent Calam. Et le sujet du jour, alors intitulé peut-être un peu pompeusement, mais en tout cas, la quête du libre à la FPH. Alors, quand commence cette quête et quelle est cette quête?
Alors, cette quête commence en fin 2004. Donc là aussi, on parle de l'archéologie de l'informatique. Cette quête, l'idée, alors effectivement, je voulais d'abord parler de migration autour du logiciel libre, mais je me suis rendu compte quand j'ai écrit cette chronique, qu'on était vraiment, on avait tous les éléments un peu d'une histoire épique. On avait un but initial clair qui était de basculer du logiciel libre. On avait des obstacles, des cul-de-sac, des tentations, des renoncements et surtout une très belle galerie de méchants à affronter et de dragons à terrasser. Car comme disait Hitchcock, meilleur sera le méchant, meilleur sera le film. Et bon, dans notre cas, les méchants, ce sont les logiciels privateurs. Et en 2004, le grand méchant, lui, s'appelait Microsoft. On avait, avant 2004, la FPH avait quelques...
La FPH, on va rappeler, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le Progrès de l'Homme, qui est située à Paris et qui soutient de très nombreux projets.
Voilà, donc on avait déjà commencé à tenter de quitter Microsoft en utilisant des logiciels qui n'étaient pas libres, mais comme StarOffice ou Netscape, StarOffice qui a été cité par les intervenants précédents. Mais le grand virage, ça a été 2004 avec la sortie en fin 2004 de Firefox, la version 1.0 de Firefox, le navigateur. Et c'est là que nous avons fait la migration en constituant un peu, je dirais, le trio magique de la bureautique, en tout cas en ce qui me concerne, qui était Thunderbird pour la messagerie, Firefox pour la navigation et OpenOffice, donc largement abordé à l'émission partie précédente sur la question du traitement de texte. Et ça, nous l'avons installé en 2004-2005. Et à ce moment-là, avec ce trio magique, on avait 80% de l'usage quotidien de l'informatique par les salariés de la FPH qui était couvert par du logiciel libre.
Et est-ce que l'installation s'est bien passée ?
Alors, c'est là qu'on a affronté les premiers obstacles. C'est une quête. Bon, pour Firefox, c'était sans problème, parce qu'en fait, un navigateur a des outils assez basiques et puis les fonctions...
À l'époque.
À l'époque, il n'y avait pas d'extension, donc c'était pas aussi répandu. Donc, fondamentalement, ça, c'était très rapide. Thunderbird, ça s'est très, très bien passé. C'est même, là, on peut dire, la meilleure réussite pour une raison toute simple, c'est que le logiciel que nous avions avant n'avait pas de filtre contre les indésirables. Donc, les gens traitaient à la main. À ce moment-là, Thunderbird est arrivé avec ce filtre, on l'a installé et les gens étaient ravis, puisqu'il y avait vraiment un gain de confort de travail immédiat. En fait, le vrai obstacle a été OpenOffice, son installation.
Mais alors, à cause du logiciel ?
Non, alors non, je ne me mets pas en cause du logiciel. Bon, c'était la version 1.0 à l'époque, tout comme, donc il restait encore plein de choses à faire. Simplement, comme il a été dit, un traitement de texte et tableur et ainsi de suite, c'est un outil beaucoup plus complexe qu'un simple navigateur. Mais il faut dire aussi que le problème est devenu de nous-mêmes, des informaticiens de la place qui ont...
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, on a commis l'erreur, c'est d'installer OpenOffice sans avertissement sur les postes des gens.
Bouh !
Oui, tout à fait. Alors, c'est en fait, les personnes se retrouvaient au retour des vacances avec leur environnement changé. Donc, situation effectivement.
Alors là, vous imaginez pas la tête de Stéphanie Robert, chef de projet de migration, qui est désespérée. Mais c'était à une autre époque.
C'était en 2004. Voilà, nous étions encore plein d'allants en pensant que le simple fait d'installer du logiciel libre allait créer des miracles. Alors qu'effectivement, ça a été perçu comme ce que c'était, c'est-à-dire une décision verticale prise par des informaticiens qui jouaient avec leur bébé et aussi, négatif, l'impression que c'était fait uniquement parce que c'était gratuit, donc uniquement pour des raisons budgétaires. Et ça, nous en sommes sortis en organisant des formations. Et c'est bien sûr parce que par deux apports énormes de la formation, c'est de faire intervenir un tiers qui va guider et qui est hors de la structure.
Ou une professionnelle de la migration.
De la formation. Et ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas là pour faire des économies, on est juste, on investit. Et au contraire, on investit dans la formation ce qu'on a économisé sur les licences. Ça, c'est. Mais le deuxième obstacle qu'on rencontrait avec OpenOffice, qui n'est pas le problème d'OpenOffice, mais c'était notre environnement de travail, puisque la Fondation est un organisme qui travaille beaucoup à l'international, avec de nombreux partenaires à travers le monde. Et là, le problème, c'est que nous étions pionniers à l'époque et très peu de gens utilisaient OpenOffice, donc utilisaient le format, la norme étant le piratage de Microsoft Word, il faut bien le dire.
On va dire la copie illicite plutôt que le piratage. C'est un terme un peu moins de propagande.
Tout à fait. Alors, allons-y. Donc, pour la copie illicite, bref, pour les gens, c'était la même chose, puisque c'était c'était la gratuité qui comptait. Hein, c'est... Hélas, on devait même maintenir des versions de Microsoft Word un certain temps pour quand on affrontait des mises en forme complexes qui se trimbalaient d'une organisation à une autre quand on travaille sur un document commun. Là, je parle des années 2000, donc il n'y avait pas tous ces outils de travail en ligne.
Oui. Alors tout à l'heure, tu as parlé que le trio, donc Courrieller, Thunderbird, Bureautique, OpenOffice et Navigateur Web, Firefox, ça couvrait 80% des besoins des personnes de la FPH. Et les 20% restants ?
Alors, les 20% restants, c'est en trois choses. Il y a des petits logiciels pour des petites applications spécifiques. Bon, par exemple, à l'époque, c'était WinZip pour la question des archives zip. Dans ce cas-là, il a suffi d'attendre d'une certaine manière que les solutions libres se développent. Hein, par exemple, cette zip pour la question des compressions de fichiers. Après, il y a le deuxième cas qui sont les logiciels très spécifiques, et on va dire des logiciels métiers comme la comptabilité, donc qui sont d'autres problèmes. Et ensuite, il y avait des développements maison qui existaient avant, parce qu'on partait évidemment d'un existant, et on avait une application qui tournait sur un logiciel du début des années 90, et qui fonctionnait très bien, très bien. Pour un logiciel des années 90, il était très performant, c'était pour la gestion des documents et de l'annuaire. Et là, ça a été mon travail à moi en tant que codeur. Là, j'ai développé la nouvelle version de ce logiciel, mais là, sous un mode client-serveur. Et évidemment, et les gens passaient par leur navigateur. Et là, le passage s'est fait sans problème parce que le but était d'améliorer. Et donc, les gens n'ont pas eu de problème à passer à ce type de logiciel. Mais ça a pris du temps parce que il faut reprendre toutes les fonctionnalités et les réimplémenter et changer un peu les habitudes de travail.
Alors, jusqu'à présent, tu as parlé de logiciels libres, mais je suppose que c'était sur l'environnement Windows. Quid du système d'exploitation et notamment de GNU Linux ?
Alors ça, GNU Linux, c'est effectivement l'objectif de la quête. Hein. C'est comme le Saint Graal, si on veut aller vers un système 100% libre. Mais là, c'est une très très longue histoire aussi. Et donc voilà, ce sera l'objet de ma chronique la semaine prochaine, puisqu'on entame, la semaine prochaine, nous avons une série de chroniques. Et donc la suite sera au prochain numéro, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Waouh. Donc, amis auditeurs et auditrices, donc nous allons devoir attendre, patienter jusqu'à donc mardi prochain pour savoir si le chevalier Vincent a permis à la FPH de réussir sa quête de la sainte liberté informatique. Bah, écoute, Vincent, je te dis à la semaine prochaine et passe une bonne journée d'ici là.
Merci.
Merci, Vincent. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Dans les annonces, il y a un apéro April ce vendredi 28 juin 2019, donc au local de l'April, dans le 19e. Toutes les personnes sont les bienvenues. Nous aurons beaucoup de bouteilles d'eau et d'autres bouteilles qu'il faut consommer un peu moins en général et même quand il fait, et encore plus quand il fait très chaud. Il y a un événement qui se passe donc à Choisy-le-Roi en Île-de-France, donc dans le Val-de-Marne, si je me souviens bien. Ça s'appelle le Passage en scène, donc une rencontre consacrée au logiciel libre, au hacking et sa culture, donc depuis 2008. Donc c'est de jeudi 27 juin au dimanche 30 juin. Donc vous avez beaucoup d'événements, je crois qu'il y a une 80 conférences. Et l'April aura un stand. La semaine dernière, je vais vous parler du documentaire Disparaître. Qui faisait un appel à financement, et ben l'appel à financement s'est terminé positivement, donc nous aurons le documentaire Disparaître qui sera financé, qui est la suite du documentaire Nothing to Hide, donc dédié à l'acceptation de la surveillance de la population à travers l'argument de je n'ai rien à cacher. Tous les autres événements, vous les retrouvez sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Donc début juillet, le week-end des 6 et 7 juillet, donc il y a un événement lié à LibreOffice, donc à Paris, et ensuite à la rentrée, c'est en Espagne, si je me souviens bien. En tout cas, vous retrouverez tous ces événements sur l'agenda du libre. Notre émission se termine. Donc, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Odile Morandi, même si on l'a perdue en cours de route, on la retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique. Philippe Hemel, Décidément. Alors en fait, je sais pourquoi je veux t'appeler Véronique, mais je te le dirai après. Donc Stéphanie Robert, Christophe Cazin, Vincent Calam. Je remercie également Christian Pierre Maumont qui est revenu dans le studio pour faire quelques photos. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, merci à lui aussi. Et évidemment, un grand merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe notamment de traiter les podcasts et donc qui va enlever tous les petits bruits du direct qui sont inutiles et donc qui nous permettra la rediffusion à 21h de l'émission. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, une page avec toutes les références utiles. Vous pourrez également nous contacter, nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également les points d'amélioration. Comme l'a dit Vincent, la prochaine émission aura lieu donc mardi 2 juillet 2019 à 15h30, émission spéciale avec que des chroniques. Donc les chroniques, alors je sais pas, il y aura Vincent Calam, donc sur Jon Collectif, qui nous donnera le résultat de sa quête. Il y aura Véronique Bonnet, je pense qu'il y aura ma collègue Isabelle Lavani, et puis je ne sais plus. Bah écoutez, vous regarderez sur le site de l'April pour le programme. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 juillet, et d'ici là, portez-vous bien.